Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Lorgnette. Aujourd'hui, on s'intéresse au commerce de proximité. Le commerçant du coin, il semble, a perdu de sa superbe. Prix des loyers, inflation, changement de mode de consommation, notamment des plus jeunes. Y a-t-il un désamour des services de proximité et des centres-villes? Pour tenter d'y voir plus clair, on y regarde de plus près, ici à Blois, dans La Lorgnette. Bonjour à tous et à toutes. Et pour m'accompagner donc dans cette heure d'émission qui va donc être consacrée au commerce de proximité et donc à la désertification des centres-villes, j'accueille en studio Laura Julien. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animatrice de l'association des vitrines de Blois, donc créée et gérée par les commerçants, en tout cas une partie des commerçants du centre-ville, et peut-être d'ailleurs vous aurez l'occasion de nous parler de cette association. Et puis Paul Gillet, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes adjoint au commerce et à l'artisanat en charge du développement commercial, de l'économie sociale et solidaire et des relations avec les commerçants, notamment, mais en tout cas sur les fonctions qui nous intéressent aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez déjà représenter, notamment Laura, donc les vitrines de Blois, son rôle et ses objectifs?
Alors les vitrines de Blois, c'est une association de commerçants qui a pour but de dynamiser le centre-ville et de faire vivre le centre-ville grâce à ses commerçants. Aujourd'hui, on a Sandrine Ougardi, la présidente, et Benoît Lefay, le vice-président, qui m'accompagnent au quotidien pour résoudre ces problématiques et accompagner les commerçants sur différents sujets. On a aussi une équipe de 12 personnes qui nous accompagnent notamment tous les mois quand on a nos réunions conseil d'administration où on prend des décisions et où on avance sur les sujets d'actualité. On travaille notamment aussi avec la ville, avec la CCI, avec d'autres associations qui nous accompagnent au quotidien sur différentes animations. Et donc nos objectifs aujourd'hui, c'est principalement d'animer le centre-ville, de mettre en place différentes animations tout au long de l'année avec plusieurs thématiques, des animations plutôt classiques comme les braderies, les soldes et des animations que les Blaisois connaissent comme la Color Run, Halloween, la Saint-Valentin, des choses qui ont l'habitude d'être vues. Et on essaye aussi tous les ans de mettre en place de nouvelles animations qui ont pour but de dynamiser sur des périodes un petit peu plus creuses. Donc c'est notre mission principale aujourd'hui. À côté de ça, en tant qu'association des commerçants, on travaille avec les commerçants tous les jours, on les accompagne sur des questionnements qu'ils peuvent avoir, sur aussi tout ce qui peut se passer au quotidien quand on a des informations concernant des manifestations ou des événements qui vont avoir lieu dans la ville, on les prévient, on essaye de recueillir aussi leur retour pour nous, les faire remonter notamment à la ville ou aux administrations qui sont en charge de ces sujets-là. Et enfin, nous, on a un dernier point sur lequel on est vraiment à fond dessus, c'est la vente de chèques cadeaux. C'est pas encore assez connu à Blois et je pense que ça a le mérite de l'être. Nous, on vend des chèques cadeaux vitrines de Blois qui sont à dépenser dans le centre-ville, chez les commerçants locaux. Et nous, c'est un bon moyen pour nous de dynamiser le centre-ville et de faire face à tous les concurrents qui peuvent exister. Donc voilà, c'est nos trois missions principales à l'association.
Combien de commerçants et de commerçantes sont adhérents à l'association?
Alors en 2023, on avait 213 adhérents. Et là, on vient de lancer, on débute en janvier, donc on vient de lancer les adhésions. On est déjà à 80 adhérents depuis le début janvier, dont 5 partenaires qui nous accompagnent. Donc les partenaires apportent un petit peu plus de moyens financiers. Mmh. Et nous, derrière, on les met encore plus en avant quand on le peut. Et c'est des entreprises qui ont les moyens de nous accompagner, nous aider sur différents sujets. Donc on est vraiment content de les avoir avec nous. Et on se rend compte que les nouveaux adhérents, on a des adhérents fidèles qui sont là tous les ans. Et on en a des nouveaux, ceux qui s'installent ou ceux qui nous connaissaient et qui n'osaient pas encore venir frapper à la porte, arrivent petit à petit et on commence à grossir. On est vraiment content de ça.
Est-ce que, Paul Gillet, le nombre de commerçants adhérents à l'association est satisfaisant au vu du nombre de commerces qui existent sur la ville de Blois?
Écoutez, on peut voir qu'il y a une forte progression au niveau des adhérents des vitrines de Blois depuis ces deux dernières années. On peut que s'en féliciter. Nous, justement, cette association, ils sont nos interlocuteurs privilégiés pour, à nos côtés, proposer un maximum d'animation et d'insuffler cette dynamique au cœur de ville et dans tous les quartiers de la ville, parce que je tiens à le souligner, quand on s'occupe du commerce, c'est sûr, pour toute la ville. Et en effet, le fait qu'ils aient atteint ce nombre d'adhérents est un signe très positif, parce que notre objectif et le leur, c'est de mobiliser un maximum de commerçants autour de cette cause. Ça pourra être que plus positif.
Cette émission, l'idée de cette émission est venue au moment de la fin de la période des soldes d'hiver qui s'est terminée il y a une quinzaine de jours. Est-ce qu'on peut dresser un bilan à l'échelle locale, si c'est possible pour vous? Je regardais Libération ce matin qui titrait le 9 février une cuvée exécrable avec notamment sur le textile une baisse observée de 6% des ventes par l'Alliance du Commerce. Une baisse de 6% générale avec dans le textile moins 12,5%. Alors ça, c'est sur la période 2019-2023. Est-ce qu'il y a déjà des chiffres qui peuvent être mentionnés sur cette période de solde qui vient de s'achever?
Alors des chiffres, personnellement, j'en ai pas, mais ouais. Le ressenti, je l'ai au quotidien. Les commerçants sont dans la globalité plutôt déçus des soldes, et c'est pas la première fois, ça l'est de plus en plus. On peut l'expliquer par la présence des ventes privées qui sont quasiment permanentes tout au long de l'année. Pour peu importe l'événement qu'il va y avoir dans l'année, c'est une bonne raison pour faire des ventes privées. Il y a l'arrivée aussi du Black Friday en France qui a vraiment tout perturbé
ouais.
Complètement, on s'y attendait
notamment
pas.
Cette période de solde post
c'est avant Noël,
fin d'année, ouais.
C'est ça, donc les commerçants ont à peine fini de payer l'achat de leurs marchandises qui sont déjà en train de la brader avant Noël, donc une période qui est ultra importante pour le chiffre d'affaires. Donc c'est compliqué pour eux de se projeter, d'acheter à des prix qui sont de plus en plus hauts pour eux auprès des fournisseurs, et pour autant de devoir les vendre sans arrêt en promotion pour s'aligner aux grandes enseignes qui, eux, ont les moyens de le faire. Nous, on s'en rend bien compte dans le centre-ville, parce qu'on a beaucoup d'indépendants, et ils sont un peu obligés de faire comme tout le monde pour ne pas être les seuls qui ne le font pas. Donc c'est ça qui est problématique sur les soldes. Et puis nous, un point sur lequel on essaye de se battre à propos des soldes, c'est les dates, puisqu'on se rend compte que mettre des soldes juste après les fêtes, on est fin janvier, l'hiver est en train de s'installer. Vraiment, là, avec le changement climatique, la météo n'est plus la même qu'il y a quelques années. Et en juin, c'est pareil, vendre ses shorts et ses maillots de bain fin juin à moins 50%, alors que l'été dure jusqu'à fin septembre, c'est compliqué pour les commerçants. Ils achètent leurs marchandises à des gros prix, ils les payent avril, mai, et ils les revendent déjà en promotion à des périodes qui sont essentielles, même quand les touristes arrivent et qu'ils peuvent consommer au prix fort. Donc c'est sur toutes ces problématiques-là qui font qu'aujourd'hui, les soldes n'ont plus l'impact qu'ils avaient à l'époque.
On voit effectivement que l'aspect de promotion de soldes, c'est vraiment lissé quasiment sur toute l'année, en tout cas très régulièrement, en dehors de ces deux grandes périodes assez fondamentales qui étaient les soldes il y a encore une dizaine peut-être d'années, tout ça c'est un peu éclaté. Quels sont les retours des commerçants, des services de proximité que vous avez, vous, au niveau de la ville, sur cette période-là, mais plus généralement sur l'attractivité des centres-villes et l'attractivité des commerces, des petits commerces?
Comme vous l'avez justement souligné dans le sommaire de l'émission, il se passe pas mal de choses en ce moment. Le pouvoir d'achat des consommateurs est impacté, la consommation évolue, les modes de consommation évoluent, la consommation sur Internet explose, la consommation physique diminue. Alors c'est difficile pour les commerçants, tout à fait, et la multiplication de ces périodes de promotion n'aide pas du tout. Notamment initié par toutes ces marques, si je peux dire, de la fast fashion, qui font un gros dégât sur le secteur. Et alors c'est difficile pour les commerçants, et c'est difficile aussi pour les consommateurs, parce qu'ils vont se dire, mais à quel moment est-ce que je paye le vrai prix? Avec cette multiplication de promotions. C'est évident pour personne. Le secteur est en pleine mutation, surtout le prêt-à-porter.
Alors j'allais y venir, effectivement. Les commerçants de prêt-à-porter, de textile, semblent, en tout cas de ce que j'ai pu lire, regarder dans les articles que j'ai vus pour préparer l'émission, semblent les plus en proie aux difficultés, là où peut-être les métiers de bouche résistent peut-être un peu mieux, puisqu'on a toujours besoin de se nourrir, là où on a peut-être moins besoin de s'habiller, ou en tout cas la consommation de prêt-à-porter, de vêtements a radicalement changé, notamment les prix aussi, mais des nouvelles modes de consommation, le seconde main, la revente sur internet ou pas, les friperies, les ressourceries, etc.
Ouais, vous avez tout dit. les gens ont des priorités qui ont changé, notamment dû au pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je pense que nous, en tout cas, chez les restaurateurs, on voit que ça fonctionne encore. Les gens ont envie de passer du temps ensemble. Ils préfèrent consacrer une partie de leur budget à aller manger au restaurant ou à commander un plat et à manger à la maison plutôt que de s'acheter un jean à 90 euros ou de s'acheter un t-shirt à 30 euros. Les priorités ont changé. Et comme disait Paul, la fast fashion, elle nous a fait mal au commerce, au petit commerce en tout cas, parce que ils peuvent pas s'aligner. Et si y a eu une tendance aussi du made in France, alors du coup les commerçants ont suivi un peu les tendances en essayant d'acheter du local, en essayant d'acheter au moins en Europe.
Il y avait une bonne volonté.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça peut porter préjudice parce que finalement, il y a moins personnes aujourd'hui qui ont les moyens d'acheter du local, mais du coup, qui vont acheter du moins cher ailleurs. Donc c'est ça qui est délicat, c'est de trouver un juste milieu pour être rentable, mais aussi pour attirer une clientèle qui est de plus en plus difficile par rapport au prix, mais aussi par la qualité, parce que le Made in China, y en a qui sont toujours très réfractaires, et heureusement. Mais aujourd'hui, malheureusement, les commerçants, ils ont du mal à trouver la balance pour pouvoir survivre. Et là, le prêt-à-porter, c'est plus la priorité comme ça l'était avant de s'acheter la nouvelle collection. Voilà, on sait qu'il va y avoir de la promo sur internet, on attend quelques semaines et on va avoir du moins 30 avec des codes promo, même sur les réseaux sociaux, tout ça, toutes ces codes promo qui sont sans arrêt sur les réseaux, ça fait mal aussi pour les commerçants. Donc c'est plein de choses qui font que ça commence à être compliqué, et le prêt-à-porter, c'est sûr que ça en paye les frais.
Quel est le taux de vacances, de disponibilité des locaux commerciaux sur Blois? Est-ce que dans le centre-ville, en se baladant, on voit, alors j'espère et puis je le constate aussi, je m'y balade quand même, une majorité de commerces et de beaux commerciaux occupés? Il y en a quand même des vides, ça arrive dans toutes les villes, plus grandes et moins grandes que Blois. Quel est le taux de vacances ici à Blois?
Alors, le taux de vacances, sujet très intéressant. Nous avons fait un relevé très précis qui date d'il y a moins d'un mois,
okay.
Réalisé par deux agents de la collectivité, un travail très méticuleux sur tout le centre-ville commerçant. Notre taux de vacances est aujourd'hui aux alentours de 8%. Je dis aux alentours parce que
depuis... en dessous de la moyenne nationale, je crois qu'il est à 10 ou 11%.
Voilà, un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Mais... ce qu'il se passe, c'est que suivant les quartiers, cela varie. C'est-à-dire que vous prenez Blois-Vienne, par exemple, il n'y a pas un commerce de libre. Parce que avec tous les investissements que nous avons faits sur l'espace public, c'est un quartier qui s'est métamorphosé. C'est un quartier qui a été historiquement très commerçant et avec des commerces alimentaires qui l'est toujours, avec des habitants. Et aujourd'hui, vous avez cette vacance qui a augmenté légèrement sur l'espace de la rue du Commerce. Et il est vrai que cette rue du Commerce, aujourd'hui, elle souffre. Mais pour toutes les raisons que nous avons exposées précédemment et très justement, elle explose parce qu'il y a des locaux avec des loyers parfois délirants. Pas tous. Tous les propriétaires n'exagèrent pas, mais certains exagèrent. Et surtout des propriétaires non blaisois, si je peux dire, des foncières immobilières ou des SCPI ou tout type de propriétaires, avec des locaux dans des états pas toujours terribles, voire même très dégradés. Donc voilà, ça rajoute de la difficulté pour les porteurs de projets que nous recevons au service développement commercial de la ville de Blois. Nous recevons quantité de porteurs de projets, mais nous éprouvons souvent les difficultés à leur trouver un local en adéquation avec leurs projets et leurs moyens surtout.
Quels sont les commerces dans les derniers mois, dans les dernières années qui ont pu s'installer, ou quel genre de commerces ont pu s'installer et tenir un peu les marées des différentes crises qui se sont succédées, qui se succèdent encore? Quelles sont les tendances d'installation de commerces?
Les tendances d'installation de commerce, comme nous le disions, tout ce qui est CHR, café, hôtel, restaurant, ça a beaucoup de succès.
Notamment dans des zones touristiques comme peut l'être la ville de Blois.
Voilà, avec notamment ce succès touristique qui s'accentue d'année en année. On a après différents types, mais dans l'alimentaire, après on a beaucoup fustigé les services, mais finalement les gens se déplacent beaucoup en centre-ville, font un déplacement physique pour des commerces de services. Mmh. Il y a eu beaucoup de critiques autour de l'installation de plusieurs supérettes et annexes de la grande distribution, mais on s'aperçoit qu'au final, c'est un plus, puisque les habitants de centre-ville recherchent des commerces de proximité en bas de leur immeuble et pouvoir se procurer des produits, de tout type de produits alimentaires, hygiène, enfin tout ce qui est nécessaire pour leur maison. Et justement, pour nous, un centre-ville attractif, c'est un centre-ville avec des habitants. Et au niveau de la ville de Blois, nous mettons tout en œuvre justement pour métamorphoser la ville, reconstruire la ville sur la ville, pour rapatrier justement des habitants en centre-ville.
Les petites grandes surfaces, permettez-moi le néologisme, c'est un vrai plus. Voilà, les commerçants ne voient pas d'un mauvais œil l'arrivée de ce genre de surface moyenne de centre-ville.
Alors, je pense pas qu'ils le voient mal. Eux, leur priorité aujourd'hui, c'est qu'ils soient plus seuls. Plus on sera nombreux et plus les gens se rendront en centre-ville. Ouais. Donc, je pense pas qu'ils soient contre ça. Ils préfèrent avoir une supérette en face plutôt qu'un local vide en train de s'abîmer. Donc, je pense pas que ça soit plutôt négatif. Après, ils aimeraient forcément plus de diversification et potentiellement des producteurs locaux, des bouchers, des primeurs, des choses peut-être un petit peu plus locales, plus que du supermarché classique. Mais on ne va pas s'en plaindre, ça existe et c'est utile et on en a tous besoin. Voilà.
Je voulais évoquer évidemment dans l'objectif aussi dans les changements de mode de consommation et les changements les nouvelles façons d'envisager les centres-villes et les quartiers commerciaux. Il y a, je crois, des contraintes écologiques avec une nécessité d'attractivité. Comment repenser les centres-villes pour qu'ils soient à la fois attractifs commercialement, mais aussi attractif d'une manière peut-être de se balader, d'avoir des parcs pour s'y poser, de consommer, d'interagir avec le monde et les centres-villes différemment.
Comme vous le disiez justement dans l'introduction ou tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de reconstruire la ville sur la ville, comme je le disais, mais avec cet aspect écologique, en essayant un maximum de désartificialiser quand on le peut, parce qu'il y a des secteurs de la ville où on ne le peut pas. Mais voilà, effectuer tout un travail au niveau de l'espace public, j'ai juste un chiffre. Pour rendre plus attractif le cœur de ville, nous en sommes à 12 millions d'euros d'investissement sur le périmètre Action Cœur de Ville. Mmh. Voilà, et dans ces 12 millions d'euros, évidemment, il y a la réfection de parcs urbains, la désartificialisation, au maximum, pour justement, comme je vous le disais, faire de ce centre-ville qu'il soit le plus attractif, agréable et dynamique possible, et surtout pour les familles où on souhaite qu'elles habitent de nouveau en cœur de ville.
L'objectif aussi des commerçants, c'est de revoir peut-être des gens habiter dans les appartements au-dessus de leur commerce, un centre-ville, un cœur de ville qui bat, pardon pour cette expression un peu pompeuse, mais un cœur de ville qui bat, c'est donc des commerçants qui vont mieux aussi en bas de chez soi, etc.
Oui, bien sûr. Et puis quand on part le matin de chez soi et qu'on rentre le soir, ça fait du passage en ville aussi, donc ça donne l'impression qu'il y a du monde. C'est ça aussi parfois qui peut manquer, c'est que les gens qui viennent en ville pour consommer disent il n'y a personne dans les rues, donc peut-être que le fait qu'il y ait plus de monde en ville, ça créera naturellement du flux aussi, même si c'est pas forcément pour rentrer dans les commerces. Et puis quand on habite, moi personnellement j'habite en cœur de ville et les samedis je sors de chez moi, je vais faire mon marché et l'après-midi je vais me balader en centre-ville à pied. Quand j'ai du monde à la maison, des amis, de la famille, j'ai plaisir d'aller me balader à pied et ça franchement c'est hyper agréable. Après voilà, il y a des contraintes comme dans toutes les villes, mais c'est sûr qu'on a envie de consommer à côté de chez soi quand on le peut et ça serait vraiment bien que le centre-ville soit encore plus habité que ce qu'il est aujourd'hui.
Laura parlait des flux, de se balader, de venir, le stationnement c'est une vraie question j'imagine pour la vitalité des commerces, mais aussi pour la vitalité à l'échelle de la ville. Je ne crois pas que la gratuité des stationnements soit dans l'objectif de la ville de Blois, et je ne pense pas dans l'objectif de toute une ville qui a une vraie volonté commerciale, puisque ça crée d'autres problèmes. Quelle est la position de la ville par rapport au stationnement en cœur de ville?
Alors la position de la ville, c'est de pratiquer les tarifs parmi les plus attractifs de France pour une ville de notre strate dans les parkings en ouvrage.
D'accord.
Par exemple, vous avez toujours la première heure gratuite et la deuxième heure, enfin l'heure est à 90 centimes, donc moins que le prix d'un café. Le développement de navettes gratuites pour le cœur de ville. De travailler sur les intermodalités. De toute façon, tout le monde ne pourra pas se garer devant la porte du commerce où il veut aller. Donc, comme nous le disions très justement avant, le fait d'essayer d'apporter le plus de côté pratique aux visiteurs du centre-ville, qu'ils soient de Blois ou de l'agglomération ou d'autres villes, ou de touristes étrangers, de leur apporter le maximum de confort pour se stationner.
Chaque semaine dans La Lorgnette, on vous propose une recommandation, un podcast, un reportage, un extrait d'une émission. Cette semaine, je vous propose un reportage et une interview. On va écouter l'interview de France 24 intitulée « Désertification des centres-villes, une fatalité française ?» Point d'interrogation.
Et nous terminons avec le journaliste Olivier Razemont, auteur de « Comment la France a tué ses villes ». Merci beaucoup d'être notre invité.
Avec plaisir.
Alors nous sommes ici à Dreux. Dreux, c'est un exemple de ces centres-villes qui se désertifient et des moyens de lutte également.
Alors, on a ici à Dreux, Eure-et-Loir, 30 000 habitants, environ 15% de vacances commerciales. Donc effectivement, on est au-dessus de la moyenne en France et c'est un exemple assez frappant, d'autant que c'est une des villes proches de Paris qui est très concernée par ce phénomène et qui est également concernée par un phénomène qu'on connaît moins bien, mais qui est la vacance des logements. Ici, dans le centre-ville de Dreux, il y a environ 14 ou 15% de logements vides.
Les deux sont liés, la désertification des commerces et des logements ?
Oui, en fait, la désertification des commerces n'est finalement qu'une conséquence de quelque chose de beaucoup plus général, qui est l'étalement urbain. On a pris finalement les éléments constitutifs de la ville et on les a mis en dehors de la ville depuis une cinquantaine d'années. On l'a fait avec le commerce, mais on l'a fait aussi avec le logement, on l'a fait avec les infrastructures, les équipements. Et les résultats de cette situation-là, c'est qu'on a des habitants qui vont habiter plus loin, des logements qui se vident et également des commerces qui se vident parce qu'on continue de construire des zones commerciales en périphérie.
Qu'est-ce que ça changerait dans le paysage français si ces commerces de proximité disparaissaient? Ça changerait nos modes de vie?
Ça modifie beaucoup de choses. Dreux, dans les années 70, c'était une ville florissante dans laquelle les gens avaient envie de vivre, agréable, parce qu'elle est jolie, parce qu'il y a des beaux bâtiments, parce qu'il y a une histoire aussi. Et aujourd'hui, ce rapport à la ville se modifie. Aujourd'hui, on vit moins qu'avant dans une ville, on vit dans une périphérie, on travaille également en périphérie, on se déplace de plus en plus en voiture individuelle, alors même qu'une partie de la population n'en possède pas. Et on ne se croise plus, on ne se rencontre plus. C'est assez symptomatique de la situation française aujourd'hui. La ville, en fait, est une cité. Et la cité, c'est la société. C'est l'endroit où on se rencontre, on se croise. Quand il y a des gens dans la rue, c'est plutôt bon signe pour une ville. Et lorsque les gens ne se croisent plus, ça fait plus société. Et c'est assez inquiétant. Et les gens finissent parfois par avoir même peur les uns des autres.
Alors, on a vu dans notre émission beaucoup d'initiatives locales pour essayer de ralentir ce phénomène. Mais l'inverser, n'est-ce pas un peu illusoire ?
Non, c'est pas illusoire. Moi, je crois beaucoup aux initiatives dans les villes de la part de tous les acteurs. Ça dépend bien sûr des élus, du maire, du président de l'agglomération, mais aussi des commerçants, aussi des riverains, aussi de la chambre de commerce et d'industrie. Et dans les villes où les gens tiennent à leur ville, en fait, on voit une forme de renaissance. On refait venir des gens en ville et c'est ça qui fonctionne.
Ça risque d'être un problème écologique au bout d'un moment, cet étalement urbain que vous dénoncez, parce que évidemment des transports pour aller consommer à l'extérieur des villes, des transports pour aller travailler dans les villes si on habite à l'extérieur, tout ça, ça consomme du carburant.
Alors évidemment, c'est un problème en fait environnemental, mais pas seulement pour ces raisons-là, aussi parce qu'on consomme des terres agricoles, aussi parce qu'on va chercher de plus en plus loin des matières premières pour construire les voitures, etc. Donc il y a plusieurs éléments qui sont de l'ordre environnemental. Et puis aussi, c'est un problème social, c'est un problème économique, c'est un problème de société. Donc c'est effectivement multifacette et c'est ça qui en fait, à mon avis, une chose assez inquiétante pour les villes de France.
Merci beaucoup, Olivier Razemont.
Voilà pour cette recommandation, le lien vers l'intégralité de la vidéo et du reportage, donc consacré notamment à la situation à la Drôme, mais aussi aux initiatives partout en France, sera à retrouver sur la page de podcast de l'émission. Je voulais, cette interview me permet de glisser vers un autre sujet, malgré tout lié, qui sont les grands espaces commerciaux, les zones commerciales, comme on les appelle. Elles ont évidemment joué un rôle fondamental dans la désarticulation, on va dire, des cœurs de ville. Ceci étant, j'ai l'impression que de plus en plus de maires et de pouvoirs publics s'opposent au déploiement, au développement de ces grandes zones, notamment avec des lois qui empêchent la loi zéro artificialisation nette. Est-ce qu'elle peut, Paul Gillet, être un rempart ou peut-être même une bouée de sauvetage, une incitation à revenir vers les centres-villes pour des commerces qui seraient tentés de s'installer là-bas et puis qui finalement ne pourront pas suite à l'empêchement de s'installer?
Voilà, tout à fait. Alors, comme vous le disiez et comme nous l'avons entendu dans le podcast, où on parle d'étalement urbain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on paye les abus de ces 30 dernières années, enfin ça depuis les années 60-70, voilà, où il y a eu cette explosion périurbaine de bâtiments commerciaux et autres. Alors attention, par contre, moi je ne vais pas tout opposer, je ne veux pas opposer périphérie à centre-ville. Dans une ville moyenne comme la nôtre, nous avons besoin des deux. Mais en revanche, il est vraiment important de faire attention à stopper et réguler cet étalement urbain. Alors pour des sujets commerciaux, mais aussi écologiques, bien sûr, quand on parle d'artificialisation des sols. Nous, à l'échelle de l'agglomération, nous avons monté le groupe urbanisme commercial, c'est-à-dire que pour tout gros projet qui passe en CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial, c'est-à-dire au-dessus de 1000 m², nous nous réunissons pour émettre un avis pour cette CDAC favorable ou défavorable. Donc vraiment... notre but aujourd'hui est de réguler cet étalement urbain en périphérie et éviter que ce soit, faut pas se mentir, que ce soit à Blois ou ailleurs, notre périphérie commerciale est trop importante par rapport à la taille de la ville. Mais comme je vous dis, ça date des années antérieures. En revanche, quand on parle de l'état du commerce, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des fermetures en centre-ville, mais il y a aussi des fermetures en périphérie.
Il y avait un article de la Nouvelle République cette semaine sur la désertification aussi de la galerie marchande de Cora, tout à fait, sur Blois-Nord. Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de raison que ces galeries commerciales soient épargnées, je veux dire du niveau des loyers, des conditions et des changements d'habitudes de consommation. Enfin, tous les sujets sur lesquels on vient de s'exprimer, ils touchent aussi les galeries commerciales.
Laura, est-ce que des commerçants, des magasins de ces grandes zones commerciales peuvent ou sont adhérentes des vitrines de Blois? Ça fait pas partie du deal?
Ça peut faire partie du deal. Nous, plus on est nombreux, mieux c'est. Ouais. Après, ils sont un petit peu moins intéressants. On en a quelques-uns, mais ils sont un petit peu moins intéressés parce qu'ils se sentent peut-être aussi moins concernés par les actions qu'on va mettre en place. Forcément, on ne va pas aller mettre une fanfare sur le parking de la galerie géant, ce qu'on va faire au contraire en centre-ville quand on a une animation. Donc, ils se sentent peut-être moins concernés et nous, on va peut-être moins aussi facilement vers eux. Donc forcément, c'est moins facile de travailler ensemble.
On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à évoquer l'attractivité dans les centres-villes. A tout de suite.
Au Javel, en caustique, savon, térébenthine, toile cirée, pâte à bois, néoprène, paraffine, entrées à l'intérieur, tout n'est pas en vitrine. Des piles, des pelles, des pioches, des peignes, des pinces, des pics, des couches, du gaz, des gueuses, des cuvettes en plastique, des joints, des sacs, des tiges, du papier hygiénique. Tous les modèles, tous les modules, toutes les grosseurs, à deux pas de chez vous, c'est de loin le meilleur. J'ai nommé Wilson, le marchand de couleurs. Tous les jours,
tous les jours,
commerçant du faubourg, on vous aime. Commerçants du faubourg, on vous aime d'amour. Articles de Paris, cravate et nœuds papillons, mouchoir petit tulle, pyjama en molleton, des gants, des épaulettes, des boutons, des pompons. Ruban, lacet, croton, cotonnade, satinette, du fil dit sur le slip, du choix dans la soquette. Elle tient jolie boutique, la reine de la ruflette.
Oui, la paruflette.
Elle en a du pilou, des des caleçons, des jarretières, des glandes, des cités, comme des cordons, des lanières. J'aime votre bobine, madame la mercière. Tous les jours,
tous les jours, tous les jours, commerçant du
faubourg, commerçant du faubourg, on vous aime,
commerçant du faubourg, on vous aime,
tous les jours,
tous les jours, tous les jours,
commerçant du faubourg, depuis bientôt toujours, on vous aime d'amour. Aiguillette de lapin, le charcutier du coin, faites un sac à boudin. Pour les problèmes de Jules, voyez l'électricien. Dormez
tous les lundis, sauf le dimanche matin.
Manchez le travail soigné.
Il a des mains en or.
Il sait, il sait déjà qu'il existe, oui.
Alors,
dans les radios là,
il lui en reste encore. Le trépied d'à côté s'occupe du mou du chat. Sa grille des chats dégote, son museau est extra. Envie de Batavia, le cours des L est là.
Où ça?
Là.
Vive la belle crémière et ses frais Fontainebleau. Vive le cordonnier qui retape des crocs. Nos chapeaux pour le caviste et son petit pinot. Je les aime, ces états propices aux commissions. Là où la balayette côtoie le potiron. J'y chabarde des mots pour en faire des chansons. Tous les jours, depuis bientôt toujours, mon cabas et moi-même.
Depuis toujours mon cabas et moi-même.
On vous aime
comme la part du popo.
Jour, tour à tour, on vous aime.
Commerçant
du foulé, on vous aime d'amour.
Merlan, Barbu, Merle, Chpéton, Cric, Calamar. Des coques, des moules, des clames, c'est des bigorneaux, des homards. Des barbeaux, des rascades, des seuls du ton, du bar. Des larmes, des poulards.
Tous les jours, tour à tour, on vous aime. Commerçant du foulé,
Guimau, Bélou, Gatine, Berlingo, Boule de Gomme. Du sang, des routoutous, des caramels, des billes de bubble gum, des macarons fous.
L'inénarrable Richard Gottener avec Commerçant du Faubourg, lettre d'amour au petit commerce de proximité. On attaque la dernière partie de cette émission avec un volet plutôt penché sur les solutions, les initiatives à la fois portées par les commerçants et les associations de commerçants et puis également la ville. Paul Gillet, donc, comment on redonne de l'attractivité, on l'a déjà évoqué certains sujets, mais comment on redonne de l'attractivité au centre-ville et notamment à donner l'envie de revenir dans les beaux commerciaux, parfois vides ou parfois donc pour s'installer dans d'autres endroits.
Ben, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un travail au quotidien.
Ouais,
déjà, vraiment, vraiment, le service, la direction du commerce à la ville de Blois s'y attelle au quotidien. Alors, ça passe par l'accompagnement, mais de A à Z, des porteurs de projets. On les accompagne dans toutes leurs démarches. On fait le lien avec les propriétaires, justement. Quand on tombe sur des propriétaires qui appliquent des loyers prohibitifs, on essaye d'agir. Alors, on n'a pas beaucoup de moyens d'agir sur les propriétaires privés, mais on essaye de faire le lien. Voilà, les foncières, on les harcèle pour qu'ils viennent voir leurs locaux dont ils ne s'occupent pas dans une ville moyenne. Après, on fait le lien avec les autres politiques publiques de la ville au niveau de l'animation culturelle, délire d'hiver, délire d'été. Vous voyez, en fin d'année, on a vraiment mis le paquet sur l'animation. Les rues étaient pleines avec le village de Noël au château. On a compté 64 000 montées au château sur les escaliers,
okay.
8 000 passages dans le petit train. Voilà, donc il y a vraiment eu une émulation en fin d'année. Alors, l'animation, c'est pas que en fin d'année, c'est toute l'année. Alors, on fait le maximum. C'est pour ça qu'on s'appuie aussi beaucoup avec, enfin, le partenariat Blois, avec les vitrines de Blois, que l'on finance à hauteur de 45 000 euros. La Chambre de commerce les finance aussi. Donc voilà, on a des partenaires privilégiés. Et après, essayer de maintenir une ville propre, attractive, accessible. Enfin voilà, tout ce qu'on peut, on, tout ce que je peux vous dire après tout ça, c'est que ben on fait notre maximum et que.
Est-ce que la ville, certaines villes deviennent peut-être des plus petites, mais deviennent propriétaires de certains murs, de certains beaux commerciaux pour pouvoir y développer une activité, on va dire plus portée sur des boutiques éphémères, des artisans locaux qui viennent présenter des produits, j'ai plus le nom en tête, mais des boutiques d'essai pour afin d'être un peu des incubateurs pour que les commerçants dans les 6 mois, 1 an, des fois 2 ans, puissent développer leur propre commerce sur leur propre fonds.
Alors tout
c'est
à fait.
C'est des choses qui se font ici à Blois aussi.
Eh ben exactement, ça c'est fait. On a supporté le dispositif en partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat de Loir-et-Cher, des boutiques éphémères,
ouais,
pendant 4 années consécutives où nous avons loué un local commercial. Alors justement, j'y viens. où on a eu plein d'artisanes et artisans. Mmh. Qui ont pu tester leur activité dans ces boutiques éphémères et un certain nombre ont abouti à une installation
d'accord
définitive. Donc ça a vraiment permis de les aider à les lancer. La ville a fait l'acquisition d'une cellule commerciale également, c'est celle des Émaux de Blois, juste en bas du château. Et après, il y a aussi les dispositifs d'aide aux travaux portés par l'agglomération. Donc quand un porteur de projet réalise des travaux dans une cellule, voilà, il est aidé dans la limite de 5000 euros pour réaliser ses travaux. Et nouveauté de cette année, un nouveau dispositif qui va être le bonus à l'installation que nous allons lancer. C'est-à-dire que nous allons mettre en relation les porteurs de projet, les agences immobilières et les propriétaires qui vont s'engager autour d'une espèce de pacte. C'est-à-dire que le propriétaire va pouvoir s'engager dans une franchise de loyer, c'est-à-dire tant que le porteur de projet effectuera ses travaux, il s'engagera à ne pas encaisser de loyer. Et d'un autre côté, ça permet aux agences immobilières, à la collectivité, voilà, de mettre en valeur ces propriétaires vertueux qui apporteront des bonnes conditions aux porteurs de projets. Et ça leur permettra d'être éligibles à une subvention également.
Ok, très bien. Laura, donc, au niveau des vitrines de Blois, on voit, vous évoquiez les différentes actions commerciales, l'échec cadeau, les différentes manifestations tout au long de l'année. J'imagine qu'au-delà de ça, il y a des réflexions permanentes pour les commerçants, pour réinventer leur modèle, redonner goût à venir aussi dans les petits commerces.
Tout à fait, bah, il faut être actif sur tous les points. Nous, on essaye de leur poser des questions, de les rencontrer au quotidien pour avoir leur point de vue et pour essayer de les comprendre. On a fait la semaine dernière un sondage sur nos réseaux sociaux. On a eu à peu près 300 réponses de personnes de tout genre, hein, sur les réseaux sociaux, et on a pu, avec ces retours-là, faire un retour à nos commerçants sur les horaires de fréquentation du centre-ville, les jours, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en centre-ville, pourquoi ils viennent chez nos commerçants, et avec toutes ces réponses-là, on essaye de trouver des solutions avec eux. On travaille aussi sur l'aspect communication. Nous, on a un certain nombre d'abonnés sur les réseaux qui nous permet d'avoir un peu d'attractivité et de permettre aux commerçants qui ne savent pas ou qui n'ont pas le temps de le faire, de leur mettre un peu en lumière leur commerce et leurs activités. Donc ça, c'est des points qui sont hyper importants. Les chèques cadeaux aussi, il faut bien y penser. L'année dernière, pour les fêtes de fin d'année, entre octobre et décembre, on a vendu 42 000 euros de chèques cadeaux. Donc c'est 42 000 euros sur l'année 2024 qui vont être dépensés chez les commerçants. Et ça, on travaille dessus pour l'année 2024 à chercher des gros CE, des grosses entreprises qui pourraient nous acheter aussi plus de chèques cadeaux à dépenser. Ça, c'est des objectifs qui sont hyper importants. Et puis après, on travaille sur différents points, notamment avec la ville, et on les remercie pour leur support, c'est la partie parking qu'on a évoquée tout à l'heure. Ça reste un sujet. D'ailleurs, dans ce sondage-là, on a eu énormément de retours sur la demande de gratuité en centre-ville. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, en tout cas pas dans les villes de notre taille. Et il faut en avoir conscience, comme disait Paul, qu'aujourd'hui, pour moins de 7 euros, on peut rester près de 8 heures en centre-ville. Ça n'existe pas beaucoup ailleurs et on a quand même 3, 3 parkings souterrains, des parkings sur la voie qui sont quand même à moins de 5 minutes des commerces de proximité. Et aujourd'hui, il existe les 2 heures gratuites les samedis. Je pense que c'est encore assez peu connu et il faut qu'on arrive à communiquer sur ça avec les commerçants. C'est que quand vous effectuez un achat chez un de vos commerçants, vous avez le droit à un petit ticket qui vous offre 2 heures gratuites dans les parkings souterrains. Donc si vous restez 2h30, vous allez payer moins d'un euro, on parle de quelques centimes, et ça vous permet de vous balader en ville, d'aller boire un verre en terrasse et de profiter de votre centre-ville sans pour autant dépenser des dizaines d'euros dans votre parking. Donc on essaye de mettre en place plein de choses pour inciter les gens à venir, pour essayer de les comprendre, pour essayer de savoir ce qu'ils recherchent aujourd'hui chez le commerce local. Et c'est plein de choses qui vont nous permettre après d'avancer et de trouver des solutions sur le long terme.
Paul, quelque chose à rajouter ? On va glisser vers la fin de l'émission.
Eh bien oui, c'est que on vit vraiment un virage et notre centre-ville est en train d'essayer de s'adapter à ce virage. Et vous parliez du jeune public tout à l'heure, la génération des millénials par exemple, et celle qui suit, je n'ai plus le nom.
La Gen Z.
Voilà, exactement. Ils ne recherchent pas du tout la même chose que les générations précédentes dans leur expérience de cœur de ville. Je veux dire, ils vont rechercher à se balader, passer un bon moment, pouvoir s'asseoir à une terrasse, boire un café, accéder à du contenu culturel, une expérience culturelle, et aussi, bien sûr, acheter le bien chez le commerçant qu'il souhaite. Mais voilà, on vit vraiment ce virage en ce moment, donc je pense qu'on va vivre encore quelques mois, pas facile, il faut bien le dire, mais faut vraiment rester positif, en tout cas nous le sommes, parce que les grandes enseignes nationales qui ferment toutes les semaines en ce moment, il y a d'autres
enseignes. Elles sont nombreuses. Tous les jours ou presque.
D'autres vont prendre la place. Et heureusement, nos commerçants historiques indépendants à Blois, qui tiennent leur commerce de manière exemplaire et courageuse, ils tiennent bon. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ok, il y a des boutiques qui ferment, mais il y a énormément de commerces qui existent, qui sont ouverts tous les jours, et il faut vraiment les soutenir.
Laura, pour conclure également, si vous avez quelque chose à rajouter.
Ce que vient de dire Paul, nous c'est l'objectif, c'est en tout cas notre ligne aujourd'hui, c'est d'être positif. On sait ce qui se passe, on n'a pas besoin on allume la télé, on sait très bien comment c'est.
Le diagnostic est posé, ouais.
Et voilà, et nous aujourd'hui ce qu'on veut c'est dire, oui c'est le cas, mais aujourd'hui on a encore des commerces ouverts, on a encore des commerçants qui en veulent et qui sont prêts à accueillir les clients comme il se doit, avec du conseil, avec du savoir-faire et avec des bons produits. Donc aujourd'hui on veut que les gens viennent en ville pour vivre une expérience, pour passer un bon moment, que ce soit pour aller boire un verre, manger en terrasse et ensuite aller consommer chez les commerçants. Et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui, c'est de revoir ses priorités et de se dire que c'est facile de critiquer, mais on a besoin de tout le monde pour vivre et les commerçants ont besoin des gens et c'est comme ça qu'on arrivera à évoluer.
On comprend bien donc que le sujet est complexe, mais que des solutions existent et qu'effectivement il y a de l'effervescence collective chez les commerçants. Merci Laura Julien, animatrice de l'association des vitrines de Blois, et puis Paul Gillet, adjoint au commerce au niveau du conseil municipal. Merci à tous les deux d'être venus en studio.
Merci beaucoup.
On se quitte comme chaque semaine avec Gaël Bernard et Nicolas Orgelet pour le journal de bord d'un élu local. À 18h, c'est l'ami Christophe pour la Roxette. On se retrouve très bientôt dans la lorgnette. Bonne fin de journée à tous et à toutes sur Studio Zef. Salut.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 104. Il est en public avec notre invité Grégory Morisseau et on va parler du projet de Lac de Loire. Et l'épisode s'appelle « Du tourisme de masse à la réappropriation d'un site touristique délaissé en plein cœur de la Loire classé UNESCO et Natura 2000 ». C'est parti.
Bonjour Nicolas.
Salut Gaël.
Nicolas, on est à nouveau en public. Donc on est à la vitrine itinérante, rue Porte Chartrenne, et on est en public. Salut public.
Salut.
Il est extrêmement sympathique.
Avec de magnifiques sérigraphies aussi. Ouais. Voilà, je vous conseille de venir voir les magnifiques sérigraphies.
Ouais, mais apparemment elles vont vite être en rupture de stock. Il faut vraiment se presser.
Ouais, c'est maintenant ou jamais.
Bon, on accueille avec nous Grégory Morisseau. Salut Greg.
Salut les gars.
Salut.
Greg, t'es ingénieur paysagiste, concepteur et géographe.
Et, ça fait beaucoup rire ces élèves que tu l'appelles Greg.
C'est vrai. tu préfères. Monsieur Morisseau.
Messieurs.
Alors, Greg, tu nous as parlé pendant deux épisodes du super projet de la bouillie. Et tu as fait aussi, tu as conçu un autre projet, c'est celui du lac de Loa, qui en plus a connu des actualités ces derniers jours. Je vous entendais parler tout à l'heure un peu en off. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, les mecs?
Hier, l'actualité, c'est qu'hier, en conseil communautaire, c'est le moment où toutes les maires de l'agglomération se réunissent pour voter les délibérations de décisions de politique publique. On a voté l'ouverture d'une autorisation de programme, donc c'est-à-dire d'un budget sur plusieurs années qui va être entièrement dédié à l'aménagement d'un espace qui s'appelle le lac de Loire. Et ça s'appelle le lac de Loire parce que cet endroit avait été pensé pour être un Las Vegas sur Loire. Donc là, on parle complètement d'autres années. On n'est plus du tout là-dedans maintenant dans l'aménagement. Mais en fait, à Blois, on avait un barrage qui permettait sur la Loire, donc un barrage au milieu de la Loire, qui permettait sur la Loire de créer un plan d'eau pour pouvoir faire de la planche à voile, du ski nautique et tutti quanti.
Wow.
Et avec un petit bras d'eau qui servait de port pour pouvoir justement amarrer les petits bateaux et les planches à voile. Et puis tout autour, des campings, des tennis, des boulodromes et une piscine avec cette idée vraiment d'avoir un pôle touristique énorme à Blois. Et puis, finalement, il n'y a pas si longtemps, puisqu'il y a encore des gens qui se souviennent de ça sur le territoire, le barrage a été enlevé. L'année où le barrage a été enlevé, ça a été l'année où il y a eu le plus de remontées de poissons migrateurs sur la Loire, du simple fait d'avoir enlevé ce seuil. Et donc, tout s'est asséché et cet espace-là a évolué. Le département qui l'a vendu à Aglopolis pour 1 euro symbolique et le parking est devenu deux fois plus petit. Les espaces ont commencé à se fragmenter parce qu'il n'y avait pas trop d'usage. Petit à petit, voilà, la piscine, finalement, elle commence à s'abîmer. Il y avait un restaurant sur un belvédère, dans un bâtiment en belvédère sur la Loire qui se dégrade. Bref, peut-être tu vas nous expliquer mieux que ça encore comment le site a évolué, Grégory. Et en tout cas, on s'est dit, comment on repense ce site pour lui redonner de la vie avec les nouveaux enjeux, avec les enjeux de biodiversité, en le retournant vers la Loire, en faisant le lien peut-être avec la passerelle sur Loire qui va arriver, en faisant le lien peut-être avec la bouillie. Et Grégory a gagné le concours de paysage qu'on a lancé sur la base de cette programmation.
C'est un bon rappel, Nico. Merci. Alors, c'est vrai que nous, on a mis les pieds, entre guillemets, dans le lac de Loire, à l'issue d'éléments de diagnostic, visiblement, qui étaient partagés. Et je pense que la première chose à rappeler, c'est de dire l'attachement des Blaisois à cet héritage nautique. Et peut-être plus qu'aux activités elles-mêmes, c'est l'héritage sociologique, social, sociétal. En fait, c'est vraiment une période, les années 80-90, où la nature, elle est vue comme un moyen de se divertir avec du sport plus ou moins extrême, mais aussi un moyen de se retrouver entre amis, en famille. C'est le temps des vacances et à quelques encablures de Blois d'avoir ce type d'infrastructure, c'est une vraie chance et partout en France on a vu se développer ce type de station
avec l'idée, c'est vrai que c'était la Loire comme espace de loisirs, la nature comme support pour des loisirs. Mais le côté par contre populaire et familial, c'est quelque chose et de lieu pour se retrouver qui est encore possible en fait, et je trouve que c'est peut-être par ça qu'on se raccroche à l'histoire en disant refaisons-en un lieu, c'est pas grave, on va en refaire un lieu pour se retrouver, pour les familles. Et on parle beaucoup de tourisme et souvent on est une sorte de premiumisation du tourisme où on fait des choses qui sont très qualitatives mais du coup sont de plus en plus accessibles à une certaine élite, et là on s'est dit non, on veut aller sur quelque chose de populaire pour le tourisme des gens de la Loire à vélo qui sont des classes moyennes ou autres, mais aussi pour les gens du territoire, pour que les gens du territoire puissent s'y retrouver.
Mais alors justement, pour nous, la question qui nous a été posée, c'est à la fois comment on fait en sorte que ce site soit à nouveau beau, agréable. Aujourd'hui, on entend beaucoup, à cause des bâtiments, les anciens hangars, la capitainerie, voilà, tout ça est en décrépitude, ça mérite d'être restauré. Donc il y a des architectes qui travaillent là-dessus, et puis bah, il reste quand même 30 hectares d'espace libre, avec des arbres voilà, qui sont vieillissants, qui ne sont pas forcément adaptés au changement climatique, hein, avec aujourd'hui, là aussi, comme à la Bouillie, une impossibilité de replanter des arbres, parce que PP, plan de prévention des risques d'inondation, on est dans l'île de la Loire. Bref, on a très peu de moyens, en fait. Hein, disons qu'on a beaucoup de contraintes, hein, pour relifter le site, hein, et le rendre agréable. Mais il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Il y a aussi l'idée de la programmation. En fait, la programmation, c'est quels usages. Et alors, on a fait la concertation avec un certain nombre d'acteurs pour se dire, bon, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'en général, quand on fait ça, on ouvre un peu la boîte de Pandore. Il y a tout. Il y a tout qui vient. Les murs d'escalade, des parcours à chiens, des circuits de frisbee, des terrains de basket, du volleyball. Et d'un seul coup, on s'est dit, ouais, ok. On a de la place, bien sûr, mais si on risque de re-rentrer dans une espèce de base de loisirs, alors qu'en fait, on va essayer, là aussi, d'être dans une logique de ménagement. Proposer à tous, mais faire en sorte qu'on ne crée pas de conflit d'usage, que celui qui vient observer la nature, il ne soit pas en conflit avec celui qui vient faire du sport, hein, et que celui qui vient faire de la pêche ne soit pas en conflit avec celui qui va au camping. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a de la place qu'on peut tout faire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, en face, quasiment en face, et peut-être un jour, on ne sait pas, avec le projet du conseil départemental, on sera peut-être relié au parc des Mets qui est en face. Et ça a été une équation qu'il a fallu qu'on gère. Parce qu'au parc des Mets, il y a un centre équestre, il y a des aires de jeux pour enfants, il y a des terrains de tennis, il y a une pâte aux joueurs, etc. Et la commande qui nous avait été passée par les élus, c'est évidemment, voilà, travailler en complémentarité. Donc c'était plutôt assez intéressant de se dire, bon, il n'y a pas ça en face, peut-être que ça fait sens de proposer ça au lac de Loire. Donc, par exemple, une plage verte, parce que à la différence du parc des Mets, qui est derrière la digue, là, avec le lac de Loire, on est quasiment les pieds dans la Loire. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui le font, bien sûr, de descendre le long de la base de kayak, aujourd'hui installée, et d'aller rejoindre la berge et d'aller mouiller les pieds. Mais c'est de l'officialiser un peu plus. Mmh. Alors évidemment, il faudra étudier des questions de réglementaires par rapport à la question de la qualité de l'eau, bien sûr.
J'imagine.
Voilà. Donc la plage verte, hein, ça c'est un truc qui peut être hyper intéressant. Une prairie de vent aussi bien dégagée pour pouvoir faire du cerf-volant. On a aussi réinterrogé cette cicatrice qui est aujourd'hui dans le paysage, hein, qui résulte de l'ancien un port qui propose, on lit un petit peu d'anciennes gradines qui étaient utilisées à l'époque pour amarrer les canoës. Donc ça, c'est des supports de promenade ou même de petits salons en bois pour adosser des transats, etc. Et puis même un peu plus au fond du site, on a considéré bien évidemment l'aspect biodiversité, où on s'est appuyé sur, enfin, on a travaillé avec un écologue pour faire en sorte que ce lac de Loire, qui est quand même un peu une rupture aujourd'hui dans la continuité écologique, hein, redevienne un maillon important, avec des patchs forestiers, avec un chapelet de mares, on en reparle, hein, là aussi, mais c'est hyper important de diversifier les milieux, d'avoir une promenade qui sinue en fait, hein, au cœur, hein, de cet ancien port, mais qui sera transformé en un chapelet de mare. Ça va être des espaces de prairies ouvertes, hein, avec quelques petites infrastructures, mais très légères, qui permettent de réhabiliter les anciens sanitaires des campings, qui sont des espèces de blocos assez vétustes et vraiment pas joli, mais de les transformer demain en pergola ou en ombrière, sous lesquelles on peut venir, alors, quand seul, en famille, ou même pour les classes vertes, hein, ou pour les sorties de classe, hein, pour découvrir le milieu ligérien, d'avoir ces espaces où on peut s'abriter, où on peut basiquement organiser peut-être des barbecues, etc. Voilà. Et puis on a réorganisé aussi les abords de la capitainerie. Qui,
C'est le grand bâtiment en belvédère sur la Loire dont je te parlais tout à l'heure, où il y avait un restaurant dedans qui fait un peu comme un phare sur la Loire, ça s'appelle la capitainerie.
Voilà, avec des. Donc là, aujourd'hui, voilà, le pied de la capitainerie, c'est un vaste parking. Et demain, l'idée, c'est de voir se redévelopper des espaces en prairie, avec des terrasses éphémères, et pour qu'on puisse en profiter jusqu'au soir et voir des couchers de Loire, couchers de soleil sur la Loire, des couchers de Loire, ça peut être très beau.
Je trouve que ce qui est intéressant et qui est commun avec le projet de la Bouillie dont on parlait avant, c'est le paysagiste, il n'est pas là pour aménager, mais plutôt pour simplifier l'espace. C'est-à-dire qu'on avait un espace qui devenait une sorte d'espace technique non pensé, où les usages s'additionnaient et où tu mettais un parking quand tu avais besoin d'un parking, tu rajoutais un algeco quand tu avais besoin d'un algeco, tu remettais des clôtures autour du mini-golf parce qu'il y avait un nouveau usage. Puis finalement, tu as une espèce d'embroglio de circulation dans tous les sens, d'usage avec les voitures qui sont mises en plein milieu du site, ce qui font que quand tu es au milieu du site, tu n'as pas l'impression d'être dans un très beau site, tu as l'impression d'être dans un parking, dans les espaces arrière des bâtiments, et tu n'as même pas de rapport à la Loire, tu es coincé. Et donc, quand on allait au lac de Loire, les gens se garaient pour aller au kayak ou au restaurant d'entreprise au moment où il y en a eu un, et c'est tout. Parce qu'en fait, tu ne vois pas le potentiel du site. Et donc, finalement, le travail du paysagiste, ça a été beaucoup de comment on resimplifie, comment on enlève beaucoup de choses, comment on enlève les clôtures, comment on enlève les voitures du cœur du site pour les remettre à l'extérieur, pour leur donner de la qualité, comment on simplifie, non pas comment on suraménage.
Et ça veut dire qu'aussi, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'au lac de Loire, on peut aller partout, à pied, moins en voiture, mais il y a une époque où on pouvait aller partout. Et quand on va partout, en fait, on va nulle part. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on raconte les choses autrement. Et justement, que quand on emmène les gens quelque part, il faut qu'il y ait un résultat au bout. Donc dès l'instant que on a vraiment retravaillé toute l'armature des chemins et sur l'organisation de où commence un espace et où est-ce qu'il finit, pour vraiment gagner en lisibilité.
Et d'ailleurs, tu as commencé le premier épisode avec les cartes Cassini et les historiques de sites, et c'est vrai que souvent en paysage, ce qui reste, ce qui bouge pas, c'est la trace, c'est les cheminements, et c'est ça qui devient la squelette et la structure des choses. Et c'est vrai que au début du mandat, je finirai par ça, en fait, je suis arrivé dans ce mandat et le lac de Loire était pris par des aspects techniques. On a des hangars qui se cassaient la gueule et donc on avait dû clôturer tout autour. Il fallait vraiment faire quelque chose pour les réaménager. Donc ils ont dit, on va réaménager les hangars. Il y avait le bâtiment du restaurant qui était très abîmé. Ils disaient, on va rénover le restaurant. Et donc moi, j'ai dû arriver en disant, non, mais attendez, il faut un plan de paysage pour penser le site dans toute son échelle, une sorte de master plan qui organise les choses. Et donc, l'idée politiquement, c'était de me battre pour dire on ne peut pas penser les bâtiments sans penser la manière dont ils vont interagir entre eux, sans penser l'ensemble de l'espace. Et donc, il a fallu se battre pour avoir un budget et pour pouvoir dire on lance l'appel d'offres très vite parce que vous avez déjà lancé des travaux d'architecture, alors qu'on aurait dû commencer par savoir où on veut aller avant de faire les travaux d'architecture. Et donc, finalement, Grégory a dû travailler très vite parce que l'idée, le principe, c'était de se dire rattrapons les architectes. Et dans l'appel d'offres, on a dit il faut que les architectes aient obligation de travailler avec le paysagiste. Et puis, c'est le paysagiste qui va donner la cohérence générale des choses pour que tout ait du sens, toutes les choses aient du sens les unes par rapport aux autres. Ou aussi la piscine. Et puis après, derrière, tu as un énergéticien pour avoir de la géothermie pour la piscine et pour tout ça. Tu penses les réseaux. Et donc, lui, finalement, il est un peu chef d'orchestre. Chacun a sa spécialité, mais il va essayer de penser la globalité des usages sur les choses. Avec cette singularité, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est un des seuls sites peut-être sur la Loire, sur l'ensemble de la Loire, qui est entre les deux digues. C'est-à-dire qu'on aménage en plus de ça un site qui n'est pas à l'extérieur des digues, mais dans les digues, vraiment dans le lit de la Loire, et avec toutes les contraintes qui vont avec.
Bon, on va terminer là-dessus, messieurs. On va remercier beaucoup Grégory.
Merci Grégory, c'est un plaisir.
Ouais, de nous avoir merci raconté tout ça.
Merci de votre public. Invitation.
Merci, on va remercier merci notre public. Public. Merci beaucoup. Ouais. J'espère que vous avez appris plein de choses. Attention au micro. Et puis, on remercie évidemment la vitrine itinérante de nous avoir reçus cet après-midi.
Magnifique. C'est magnifique. Ouais. Il faut venir, c'est magnifique.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
t'appelles...
Et tu t'appelles Gaël.
Tu es l'élu bavard.
Et toi, t'es le compère réalisateur.
Ouais, exactement. On est mi-mandat, Nicolas.
Déjà, 100 épisodes, c'est dingue.
Ouais, et si jamais vous vous posez des questions sur notre podcast, on a un hors-série qui s'appelle « C'est quoi journal de bord d'un élu local ?» Vous le trouverez entre l'épisode 79 et l'épisode 80.
Et puis, vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur toutes les plateformes.
Apple Podcast,
Deezer, Spotify, Google Podcast, tout ça, tout ça. Et on a un site internet dédié sur Ocha.
Et on est aussi diffusé sur Studio ZEF.
Agitateur de fréquence.
C'est sur 91.1 dans l'émission La Lorgnette.
Avec Thomas et Clémentine.
Ouais, c'est chaque jeudi à 17h.
Et on remercie aussi Julien Soula.
Pour le graphisme.
Et puis Clément Horry.
Pour la musique.
Elle est trop top.
Ouais, tout ça nous accompagne beaucoup. Et alors,
nous met de bonne humeur.
Merci à vous aussi d'écouter. Et
on se dit à tout de suite sur le prochain épisode.